Morning Edition from NPR News.
Merci, Jean Sandin, Bellhausen.
Hey, I'm Radio
Rosalie
Paris.
Comment ça
s'appelle
dans la radio?
France Inter. Le 18-20.
Et notre invité ce soir, c'est Andrei Kourkov, l'écrivain ukrainien que vous avez déjà entendu ici depuis le début de la guerre. Il est de passage à Paris. Il vous racontera ces presque cinq semaines qu'il vient de traverser et ce qu'il entrevoit aujourd'hui de ce conflit. Le bruit du monde, c'est votre rendez-vous habituel avec Caroline Gillet et ses notes vocales d'Ukraine. Daria est avec nous ce soir, vous avez d'ailleurs déjà rencontré. Le bruit du monde est aussi en Grèce. Nous sommes devant le port qui pourrait un jour servir de point de chute si les habitants de Mariupol étaient évacués. Et puis sous les radars, Sébastien Lojeni a trouvé un Premier ministre très critiqué en Australie, un aéroport qui crée une grosse polémique au Mexique et les journalistes anglais qui ont une cravate noire dans les poches en cas de mort de la reine, figurez-vous. À 18h50, c'est le cinéma en VO avec Alexis Demeyer, une histoire de super-héros au temps des nazis. Et puis 18h55, Le Monde d'après de Jean-Marc Four, la Chine face à l'échec de sa stratégie zéro Covid. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Andrei Kourkov.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ici à Paris. On a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois depuis le début de cette guerre par téléphone. Vous nous avez raconté d'abord à Kiev et puis votre départ pour l'Ouest et un peu plus loin même dans l'Ouest encore. J'ai d'abord envie tout simplement de vous demander comment ça va. Est-ce qu'on s'installe dans cette précarité-là, même à votre corps défendant, mais est-ce qu'on s'installe là-dedans ou est-ce qu'on refuse de s'y installer?
Oh, je ne sais pas. On adapte, il faut dire que on adapte à la guerre pas très facilement, mais on perd la peur, par exemple. Mm-hmm. Je n'ai pas de peur, c'est-à-dire c'est pareil pour moi, qu'est-ce qu'il va passer avec moi. Je m'inquiète de ma famille, de ma femme, de mes fils, de mes amis. Je parle par téléphone avec beaucoup de collègues. Et il y a une collègue avec qui je ne peux pas connecté il y a déjà 4 jours parce qu'elle habitait à Melitopol. Melitopol est occupée par les Russes. Ils sont débranchés à Internet et la connexion téléphonique. Et maintenant, c'est impossible de parler avec des gens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il passe là. Et comme ça, il n'y a pas de sensation de stabilité. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est le temps pendant la guerre. Casser, c'est pas divisé dans les heures et minutes, c'est divisé dans les nouvelles et l'absence des nouvelles.
Ouais. Ça veut dire que vous avez du mal à vous arracher aux informations, oui, à la télévision, ou est-ce qu'au contraire vous la fuyez?
Je regarde que les nouvelles sur l'internet et je demande des questions de mes amis avec qui je parle.
Et vous tweetez beaucoup d'ailleurs aussi. Vous participez à cette conversation.
Oui, j'ai commencé ça parce que j'ai remarqué que les gens cherchent plus d'informations sur Twitter que sur les sites des agences de presse. Mm. Et c'est très intéressant que la réaction arrive tout de suite sur Twitter.
Est-ce que vous écrivez quand même, Andrei Kourkov, ou est-ce que... on ne peut pas écrire dans cette situation-là.
Je ne peux pas écrire littérature. J'ai arrêté d'écrire mon roman. Je ne sais pas quand je vais recommencer. Mais j'écris beaucoup de textes sur la guerre. Et j'écris des notes dans mon journal. Et je cherche, et je trouve des histoires, et des destins et tout ça. Et j'ai publié, je crois, 30, 40, 50 articles dans la presse internationale, plutôt anglophone et allemandophone, mais aussi un peu ici. Et je veux garder tous les textes et peut-être après éditer un livre avec des textes, mais aussi avec mes notes du journal.
Ça veut dire qu'on ne peut plus écrire de fiction moment, quand on est Andrei Kourkov et qui a écrit tellement de livres et tellement de fiction, parfois drôle d'ailleurs, très enlevé. Aujourd'hui, est-ce que cette légèreté-là qu'on trouve dans vos livres, et y compris dans le dernier d'ailleurs, on y reviendra, malgré la lourdeur de la guerre dont vous parlez, est-ce que ça veut dire que cette légèreté-là, vous l'avez perdue, Andrei Kourkov?
Pour le moment, oui, comme je pensais que j'ai perdu le sens de l'humour.
Le sens de l'humour?
Oui, mais en fait, 3 semaines après le début de la guerre, j'ai retrouvé mon humour et c'est un peu différent maintenant parce qu'il y a 2-3 jours, j'écris sur Facebook 2 phrases comme une blague. ne démonisez pas Poutine, s'il vous plaît, les démons ne sont pas contents.
Mm-hmm. Ça veut dire que vous êtes devenu plus cynique, en fait. Votre humour est plus cynique aujourd'hui, peut-être.
J'étais toujours un peu cynique. Mais maintenant, peut-être oui. Peut-être c'est vrai parce que c'est ce qui se passe maintenant ouais. En Ukraine. C'est pas humain, c'est le cynicisme le plus dangereux et c'est le plus horrible. Et bien sûr, je ne suis si cynique comme M. Poutine ou le général de l'armée russe, mais ce que je trouve dans ma tête, dans mes sentiments, c'est peut-être c'est le fatalisme cynique, ce n'est pas le cynicisme pour...
Mais fatalisme, est-ce que ça veut dire que vous êtes quand même encore optimiste sur ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? Est-ce que vous l'avez peut-être retrouvé, votre optimisme, en regard de ce qui s'est passé ces 4 dernières semaines?
J'étais surpris, et je suis surpris jusqu'à ce moment, par la résistance des Ukrainiens, par cette force montrée par les gens ordinaires qui quittaient toutes les choses, laissaient... les choses matérielles et aller à la guerre pour défendre la patrie. Parce que normalement, quand on parle de patrie, on pense que c'est un peu trop. C'est des mots politiques sans esprit.
Qui ont perdu leur sens, fait. Alors que là, non.
Et ici, oui, c'est parce que les Ukrainiens sont si attachés à mode de la vie, aux traditions anarchiques, à la liberté. Parce que la liberté des Ukrainiens dépend de la liberté du pays. S'il n'y a pas de pays d'Ukraine, en fait, la liberté va disparaître.
Mais est-ce que vous diriez, Andrei Khrouchkov, que c'est Poutine qui n'a rien compris à l'Ukraine, qui n'a même rien compris à son histoire? Ou est-ce qu'il pensait que même vous, les Ukrainiens, au fond, aviez oublié votre propre histoire et qui vous étiez, et qu'à l'occasion de cette guerre, on y met des guillemets, vous avez tous retrouvé à la fois ce que vous êtes, ce que vous faites, comment vous parlez, la langue qui est la vôtre, et tout ce qui fait l'Ukraine, en fait.
En fait, je suis un russe ethnique, je suis un russe au fond.
Vous dites
je
que suis... vous êtes un russe ethnique et un ukrainien politique, ça veut dire
oui,
quoi
d'ailleurs? Oui, c'est ça. Comme ça, je suis aussi le représentant des mentalités ukrainiennes parce que je suis vécu ici en Ukraine. J'ai passé 59 ans des 60 ans.
Vous avez quitté la Russie, vous aviez 2 ans.
Oui.
Mais ça reste votre langue maternelle.
Oui, et comme ça... Poutine, ils ne comprennent pas vraiment rien dans l'histoire. Ils inventent l'histoire qu'ils aiment.
Mais du coup, est-ce que ça change quelque chose à ce que vous êtes? Vous l'avez rappelé, vous êtes né en Russie, vous êtes russophone techniquement. Donc est-ce que ça change même l'écrivain que vous êtes, la qualification même que vous avez de vous-même désormais?
Non, c'est-à-dire que je veux dire qu'il y a des... Ukrainiens plus vrais que moi, c'est-à-dire d'origine ukrainienne, qui parlaient la langue ukrainienne génération après la génération, et comme ça, ils sont pour moi plus importants, plus authentiques. J'ai appris à être ukrainien. J'ai appris, je suis très heureux d'être ukrainien, d'habiter en Ukraine, d'être libre. Et ça est très important. Et les Ukrainiens comprennent qu'ils ils ont en fait essayé de faire l'Ukraine indépendante beaucoup de fois. Et l'Ukraine était indépendante pendant 200, 300 ans. Ça, cette Ukraine existait dans le même moment quand la monarchie russe existait et les gens russes en fait représenter et jusqu'à aujourd'hui représente une mentalité opposante à l'Ukraine parce que les Ukrainiens sont individualistes et pour les Ukrainiens la liberté est plus importante que l'argent ou la stabilité et pour les Russes c'est une autre chose parce qu'ils sont monarchistes, ils adorent son tsar, s'ils sont fatigués avec le tsar, ils le tuent et adorent le prochain, mais ils restent toujours avec le chef qui est réélu ou installé jusqu'à sa mort. Mais cette stabilité russe, c'est pas la stabilité européenne, c'est pas la stabilité économique, c'est stabilité des, on peut dire, des notions que nous sommes mieux et notre tsar est plus important, ou le plus important dans le monde, et on est ensemble, Et à cause de ça, c'est cette grandeur artificielle de la Russie, c'est aussi une raison pour attaquer les autres pays qui n'acceptent pas ce grandeur et cette tentative de détruire la liberté des autres.
Grandeur artificielle, vous dites, est-ce que vous avez le sentiment que nous aussi, au fond, nous les Occidentaux, on redécouvre l'Ukraine, on arrête de vous mettre dans le même bloc, au fond on a même découvert et peut-être même redécouvert que certains écrivains qu'on avait mis, nous, bêtement sous l'étiquette soviétique, étaient en fait ukrainiens. Est-ce que pour la langue aussi, la langue ukrainienne est revenue et reparlée, on apprend nous aussi à reprononcer les choses correctement, on parle beaucoup de Kiev à la place de Kiev par exemple, des choses comme ça. Donc est-ce que pour nous aussi les Occidentaux, vous diriez que c'est une leçon que vous êtes en train de nous donner à nous?
Bien sûr, mais les Occidentaux ont commencé à faire ça après le début de la guerre. Avant, l'Occident n'avait pas beaucoup de confiance à l'Ukraine, et je comprends les raisons, parce que bien sûr, l'Ukraine restait un pays corrompu, moins corrompu que des autres, mais vraiment, des réformes, il était trop...
Trop lente.
Et pas très efficace, les politiciens n'étaient pas vraiment très professionnels, tout ça, mais... En fait, le peuple, la société civile était toujours beaucoup plus progressive, beaucoup plus dynamique que l'élite politique d'Ukraine.
Vous êtes président du Pen Club d'Ukraine, Andrei Kourkov, qui regroupe des auteurs, des journalistes. Et dans l'une de vos interviews précédentes, à quelqu'un qui vous disait « qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider les auteurs, pour aider les journalistes ?» Vous dites « traduisez-nous, traduisez-les ».
Oui, il faut traduire, il faut... Pas seulement... les auteurs ukrainiens, mais les livres non-fiction sur l'histoire d'Ukraine, sur les traditions, sur les relations politiques entre la Russie et l'Ukraine. Et les auteurs comme Timothy Snyder, ou Anne Applebaum, ou Sergei Plokhy, c'est un historien et écrivain canadien d'origine ukrainienne.
Et il faut redécouvrir ces auteurs-là. Tout le monde a été frappé, Andrei Kourkov, dans le dernier livre qui est le vôtre, Les abeilles grises. Jusqu'à quel point vous avez été visionnaire? Vous nous parlez de ce que vous appelez la guerre grise, en fait, celle du Donbass, avec votre héros qui est là et qui traverse pour aller jusqu'en Crimée. Moi, je me demande, en fait, jusqu'à quel point vous nous en voulez à nous, en fait, de ne pas avoir vu que la guerre en Ukraine existait depuis 2014, qu'il y avait bien une guerre qui était réelle, qu'on imaginait à bas bruit, qu'on imaginait finalement à peine exister, en fait. Est-ce qu'on a refusé de voir ça, nous?
Oui, c'est pas votre faute.
Merci.
C'est la situation avec médias, avec les ventes des informations, parce que c'est impossible de vendre la même information jour après jour. Et c'est les journalistes, les médias décident où il faut directer les yeux des...
Diriger les yeux des lecteurs.
Diriger des yeux des gens, oui.
Est-ce que vous avez des amis intellectuels russes, j'imagine? Est-ce que vous les avez encore? Est-ce que vous parlez?
Je connais quelques écrivains russes qui habitent à l'étranger. Je suis en contact avec un ou deux écrivains qui restent à Moscou. Mais
oui. Du coup, vous comprenez encore ou pas? Est-ce que vous comprenez encore? Est-ce que vous comprenez encore les Russes?
Je comprenais les gens qui protestent contre Poutine. Et je ne veux pas comprendre 80% des Russes qui soutiennent la guerre en Ukraine. Je pense que c'est en fait ces Russes qui ont créé Poutine. C'est pas Poutine qui a créé la Russie d'aujourd'hui.
Pensez?
Oui, c'est les Russes qui soutiennent la guerre, qui soutiennent le grandeur russe, qui veulent avoir un tsar qui va être capable de lancer les armes nucléaires ou menacer avec des armes nucléaires. Cette société est coupable. Et je peur que quand Poutine est mort, cette société va trouver le Poutine numéro 2 pour choisir lui comme le président
comme
prochain.
Le nouveau président. Oui. Hier, au même endroit et à la même heure, Andrei Kourkov, on avait Jonathan Little, l'écrivain, le scénariste, qui a couvert notamment la Tchétchénie, la Géorgie, et qui disait, il dit aux Russes, « Faites votre Maïdan et révoltez-vous ». Est-ce que vous croyez que c'est possible, vous, de la part des Russes?
Non, les Russes ont peur de protester. Comme j'ai dit, ils ont peur de perdre cette stabilité qui est en fait pas stabilité. C'est un état de paix temporaire. Mm-hmm. Parce que le danger est partout. Et les gens vivent plus dans le peur que dans le temps soviétique, parce que dans le temps soviétique, il n'y avait plus de dissidents, beaucoup plus de protestes qu'en Russie. Les gens savaient que s'ils montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec le Parti communiste, ça va les ramener dans les prisons, dans le goulag. Mm-hmm. Et maintenant, c'est cette société vraiment sans courage, sans attitude politique.
Est-ce que vous y croyez à ces chances de négociation qui ont l'air en meilleure posture, on va dire, aujourd'hui qu'il y a encore deux jours? Est-ce que vous y croyez à
ça? Je ne crois pas. C'est le camouflage de Poutine pour montrer les Occidentaux qu'ils pensent que la paix est possible, mais dans sa tête, il n'y a pas d'espace pour la paix. Il veut aller jusqu'à la boue. Il veut détruire ceux qu'il ne peut pas occuper.
Ça veut dire qu'il ira jusqu'à Kiev, selon vous, même si pour l'instant les choses
sont
un peu plus calmes.
Il va essayer d'aller jusqu'à Kiev, mais j'espère que Kiev va résister, Kiev va être défendu.
Mais de fait, est-ce que vous diriez que, quoi qu'il arrive au fond, et par rapport à tout ce que vous venez de nous expliquer, l'Ukraine a déjà gagné cette guerre? D'une certaine façon, elle a déjà gagné cette guerre.
Oui. Si on parle du côté moral et du côté d'esprit. Mais Poutine et la Russie, ils pensent qu'ils ne peuvent pas devenir les victimes. C'est parce qu'il y a ce culte des victoires en Russie, et ce culte était très important dans le temps soviétique, c'est-à-dire que les Russes sont toujours les vainqueurs. Mmh. Ils ne peuvent pas perdre la guerre, perdre le match, perdre quelque chose, parce qu'ils sont les meilleurs.
Vous vous imaginez, vous vous voyez, même avant la fin, pardon d'y mettre des guillemets, retourner à Kiev?
Bien sûr, je vais retourner à Kiev. Enfin, mon fils, le plus jeune, s'est retourné à Kiev et nous ne pouvions pas l'arrêter.
En attendant, pourquoi pas vous lire Andrei Kourkov. Le dernier livre s'appelle Les abeilles grises chez Liana Levy, et vraiment ceux qui liront verront à quel point vous avez été visionnaire aussi sur ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays, l'Ukraine. Merci beaucoup de votre passage chez nous. Merci vraiment.
Merci.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Et la suite ce soir, c'est le bruit du monde avec les notes d'Ukraine de Caroline Gilly, avec un détour aussi par la Grèce et le port qui pourrait un jour accueillir des réfugiés de Mariupol. Sous les radars, c'est vous Sébastien Logeni.
Le nouvel aéroport de Mexico sème la discorde car il sera géré par des militaires.
Le cinéma en VO, Alexis Demeyer, bonsoir.
Bonsoir, je vais vous parler d'un film de super-héros italien.
Le monde d'après, Jean-Marc Faux, bonsoir à vous.
Bonsoir à tous. La Chine, deux ans après tout le monde, est confrontée à une flambée des contaminations qui met en évidence l'échec de sa stratégie zéro Covid.
Allez, à tout de suite, tout le monde, le tour de la planète fait un petit crochet par Los Angeles. Les Hills, Strawberries and Popcorn, c'est sur France Inter.
Tight and keep me warm. pester me now. I can do what I want inside of this house. If I wanna eat some strawberries and popcorn for dinner, well, it's up to me.
Les notes vocales d'Ukraine, c'est avec vous comme chaque soir. Bonsoir Caroline Gillet.
Bonsoir Fabienne.
Vous nous partagez des messages d'une dizaine d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qu'on retrouve régulièrement, qui vous envoient via leur téléphone depuis le début de la guerre leurs impressions et leur vie. Ce soir, on retrouve Daria.
Oui, Daria, c'est elle qui est traductrice et qui avait quitté Kiev pour l'ouest du pays. L'idée était ensuite de traverser la frontière avec ses deux filles, mais depuis qu'ils sont là, à Khmelnytsky, c'est calme. Alors elle s'est mise à rêver de pouvoir rester auprès de son mari avant un retour vers Kiev. Et puis, hier soir, j'ai reçu ceci.
Il est presque minuit. On ne s'était pas encore couché, mais on a entendu quelques explosions juste, mais vraiment, on a l'impression que c'était à quelques kilomètres de notre immeuble. C'est pour la première fois qu'on a entendu des explosions ici depuis qu'on est venu. Une partie des habitants de l'immeuble sont en train de descendre. Je les vois par la fenêtre. Et on voit aussi les gens sortir de l'immeuble qui est en face. Enfin, nous, on ne descend pas parce que les enfants dorment. On les a pris dans les bras. On reste dans le couloir. Je me suis approchée de la fenêtre. Il y a des mères avec des enfants, des petits-enfants qui sont sortis. Des voitures qui arrivent et qui partent. Là, il y a mon père qui appelle mon mari. Je pense qu'il a aussi eu ces informations. Voilà, mon mari me dit qu'il ne sait pas. Qu'il ne sait pas où ça est le lieu. Bonjour Caroline, aujourd'hui, ce matin, c'est plutôt tranquille ici. Il y a eu quelques publications sur ce qui s'est passé la nuit. Apparemment, il n'y a pas eu de victimes. Selon le maire de la ville, il visait des entrepôts de carburant. En réalité, hier soir, nous avons eu une discussion avec mon mari sur ce qu'on fait, on va partir. Moi, je vais partir avec les filles. Je pense qu'on le fera demain ou après-demain, au plus tard. On n'est plus en sécurité, enfin, nulle part en Ukraine.
Elle nous laisse là-dessus. Daria, j'espère qu'on pourra avoir de ses nouvelles.
Oui, on va avoir de ses nouvelles. Elle va aller chercher des chaussures d'été pour ses deux filles, parce qu'elles ont voyagé sans rien, et elle va nous envoyer de ses nouvelles, oui.
Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup, Caroline Gillet. À demain.
Le 18-20.
Et le bruit du monde continue, il recommence à faire le tour du monde. Ce soir, direction la Grèce et l'extrême est, en face de la Turquie, au port d'Alexandroupolis. Nous sommes à côté du détroit des Dardanelles, porte d'entrée vers le Bosphore, puis la mer Noire. Alexandroupolis pourrait devenir une base arrière importante de l'OTAN en cas d'externalisation du conflit ukrainien. C'est ici aussi que pourrait, entre autres, arriver, si demain une évacuation de Mariupol avait enfin lieu, les premiers bateaux de réfugiés ukrainiens. Le reste, c'est François-Xavier Frelon qui raconte.
Dans la rade d'Alexandroupolis, l'immense navire américain Liberty Passion a fait une irruption remarquée derrière le ferry pour les îles et les frégates de garde-côte qui d'habitude récupèrent les migrants naufragés en mer. À son bord, des dizaines de chars Abrams de la 3e brigade de combat de la 4e division d'infanterie américaine. En quelques jours, les fast-foods de cette ville en déclin, marquée par la crise économique et les mauvaises relations avec le voisin turc, se sont remplis de jeunes soldiers en civil bruyants. 3500 GI devraient débarquer bientôt. Ces renforts américains iront en Roumanie à la frontière ukrainienne. D'autres resteront ici. À bas l'OTAN, nous ne voulons pas de l'impérialisme, crient ces manifestants du parti communiste local, le KKE. En faisant de ce port stratégique une des plus importantes bases militaires occidentales de la région, l'objectif de l'OTAN est de contrôler davantage l'accès des navires russes en Méditerranée et de redéployer des troupes de l'Alliance Atlantique en Grèce, considérées par le président Biden lors de son séjour en Europe comme un allié crucial. Une réalité qui inquiète, selon Spyros Marketos, maître de conférences en sciences politiques à l'université publique de Thessalonique.
Ce n'est pas dans l'intérêt de beaucoup de Grecs, notamment dans ce coin, car cela propulse la Grèce au premier rang des pays visés en cas d'éventuelle escalade militaire ou d'attaque russe au-delà des frontières de l'Ukraine.
Ici, comme dans toutes les grandes villes du pays, les manifestations contre la Russie se suivent et se ressemblent. Elles ne déplacent pas les foules ou quelques Ukrainiens en exil. Même tendance dans les sondages comme ce dernier de la revue Politico, où 67% des Grecs se disent contre le soutien militaire à l'Ukraine et autant penchent pour la neutralité. Alexandroupolis a été marquée par les deux conflits mondiaux, la guerre civile juste après, entre militaires soutenus par l'Amérique et communistes soutenus par Moscou, a beaucoup marqué les esprits, selon Sotiris Danesis, reporter de guerre, tout juste rentré de Mariupol.
Vous avez encore des gens qui pensent que les Russes sont les alliés historiques, les alliés de toujours, que les Russes partagent la même religion que les Grecs. Donc vous avez un front anti-occidental qui va de la gauche à l'extrême gauche et de la droite à l'extrême droite.
À Alexandroupolis, on se prépare aussi à recevoir peut-être demain des réfugiés grecs de Mariupol en cas d'évacuation humanitaire. On recense environ 150 000 Ukrainiens d'origine grecque, la plus grosse communauté européenne. Leur retour pourrait faire changer l'appréciation d'un conflit à seulement 1000 km de là, mais encore très loin des priorités du quotidien dans les consciences.
François-Xavier Frelan pour le reportage. Merci beaucoup. Et puisqu'on aime bien les reporters d'Un jour dans le monde, je vous le mets dans l'oreille, c'est amical, la sortie du livre de François-Xavier Frelan. C'est un roman chez Interval qui s'appelle Un été à Hanafi. Voilà, on est heureux de jouer les passeurs. Le bruit du monde. La suite, c'est Sébastien Eugénie sous les radars.
The President.
Et nous sommes dans le Parlement australien pour commencer. Sébastien, avec une ambiance de plus en plus tendue à quelques semaines des législatives.
Oui, et celui qui concentre toutes les critiques depuis des semaines n'est autre que le Premier ministre lui-même, Scott Morrison, qui espère bien se maintenir au pouvoir dans un mois et demi. Scott Morrison, chef du gouvernement australien depuis 2018, pour lequel la France ne cache pas son inimitié depuis l'affaire des sous-marins nucléaires. Mais ce qui est plus rare, c'est que les membres de son propre camp, le Parti libéral, multiplie désormais les attaques contre lui. Dernière sortie en date, celle d'une sénatrice, Concetta Fierravanti-Wells, c'est très conservatrice, et qui malgré tout n'hésite pas à tirer à boulet écarlate contre son propre chef de file. On l'écoute. Il mange à tous les râteliers, il n'a aucune conscience. Il y a un proverbe qui dit « le poisson pourrit toujours par la tête ». Eh bien, Morrison a ruiné notre parti libéral en piétinant sa constitution. C'est un autocrate, une petite brute qui n'a aucune boussole morale. Dans ma vie politique, j'ai rencontré des gens impitoyables. Morrison est en haut de la liste. Morrison n'est pas fait pour être Premier ministre. Voilà, pour cette diatribe d'une rare férocité que Morrison met sur le compte de l'amertume de cet élu qui risque de perdre son poste. En attendant, les sondages le donnent largement perdant, 15% derrière les travaillistes, résultat dans les urnes d'ici un mois et demi donc.
Un autre homme politique controversé, Sébastien, c'est le président mexicain dont le nouvel aéroport fait débat.
C'est le chantier emblématique d'Andrés Manuel López Obrador, dit AMLO, un deuxième aéroport à Mexico pour désengorger l'ancien qui date de 1952. Une inauguration en grande pompe la semaine dernière avec des milliers de supporters venus saluer cet édifice de 55 000 mètres carrés. Cet architecte bord des larmes se dit très fier. J'ai même envie de pleurer en voyant ça. C'est quelque chose de spectaculaire, une œuvre monumentale construite, dit-il, en très peu de temps et avec de la qualité. C'est précieux. Le grand argument, en effet, d'AMLO, c'est que cet aéroport a été construit en un temps record, 30 mois à peine, avec 4700 ouvriers encadrés par des ingénieurs militaires, des soldats. Un aéroport construit par l'armée et bientôt géré par l'armée mexicaine. Pour donc baisser les coûts, dit le président, empêcher une éventuelle privatisation et lutter contre la corruption. Une militarisation des infrastructures qui inquiète les opposants d'AMLO, qui seraient en train donc de faire des généraux des grands patrons qui n'auront de compte à rendre qu'au président. 60% des Mexicains toutefois sont pour cet aéroport selon les sondages. Ça tombe bien, un référendum aura lieu dans 10 jours pour savoir si le président peut rester ou non au pouvoir. Le toujours très populaire AMLO a toutes les chances de l'emporter.
Et on termine, Sébastien. Sébastien, avec ce qui pourrait ressembler à un épisode de série entre James Bond et The Crown.
Oui, en Grande-Bretagne, on l'appelle l'opération London Bridge, nom de code donné par le gouvernement britannique au plan qui sera déclenché dans tout le Royaume-Uni au moment de la mort de la reine d'Angleterre. Ça paraît un peu morbide, inconvenant, même alors que la reine Elisabeth II est toujours en vie, je vous rassure, mais à bientôt 96 ans, eh bien sa disparition doit être anticipée. Et cela fait des années que les autorités s'y préparent, mais aussi les médias. Les commentaires hier d'une chaîne anglaise lors du grand retour d'Elisabeth II en public devant ses sujets après 5 mois d'absence. Les télés, donc comme tous les médias, ont un plan en cas de décès d'Elisabeth II, l'opération London Bridge. Donc au sein de la BBC, une alarme spéciale retentira dans toute la rédaction. Le Times lui a déjà 11 jours de contenu prêt à imprimer. Chez Sky News, on fait des répétitions discrètes avec le nom de Mrs. Robinson plutôt que le nom de la reine. À la radio, les playlists de musique triste sont déjà calées. Enfin, les journalistes spécialistes traînent toujours avec eux une veste et une cravate noire au travail, en week-end et même en vacances. Ne pas être en noir ce jour-là serait une faute professionnelle. Un journaliste qui, en 2002, avait annoncé la mort de la reine-mère vêtue d'un costume gris et d'une cravate prune avait été viré à l'époque.
Oh la vache. Merci beaucoup, dit-on. 11 jours de contenu prêt dans le journal.
Ça, c'est
très, très impressionnant. Merci beaucoup, Sébastien. Tiens, bien sûr, à demain. Vous repartez, ça n'a rien à voir avec une version très étonnante du Poinçonneur des Lilas, signé Kenzo Saeki, le japonais, un album totalement étonnant. L'homme qui s'appelle lui-même l'homme à la tête de sushi, d'ailleurs, ça vous donne une petite idée. Il chante même du Claude François à 16h. Et merci à Djoubaka, le programmateur fou d'Un jour dans le monde. Vous jugerez, mais moi je trouve ça charmant, en fait. Kenzo Saeki, le Poinçonneur des Lilas sur France Inter. Allez, cinéma comme chaque mercredi avec Alexis Demeyer.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, let me start.
Signore e signori.
È un regalo per Hitler. Un pugno di super uomini con lui al comando.
Baby, can't you see?
Direction donc l'Italie, vous l'avez entendu pour le cinéma en VO. Alexis, Freaks Out est à l'affiche depuis ce matin. C'est un film à grand spectacle, à gros budget, réalisé par un quasi inconnu. Il s'appelle Gabriele Mainetti. Et c'est son deuxième long métrage. Il a 45 ans, ce monsieur. Il n'a pas choisi la facilité puisque Freaks Out, c'est un film de super-héros, mais au temps du nazisme.
Oui, nous sommes à Rome au début des années 40. Matilde, Fulvio, Sensio et Mario sont des artistes de cirque. Leur chapiteau est bombardé alors qu'ils sont en pleine représentation. Se sachant menacés par les nazis, ils tentent de fuir aux États-Unis, mais ils sont capturés. Ce que leurs ennemis ignorent, c'est que ces quatre fantastiques sont dotés de pouvoirs surnaturels. Avec cette super superproduction made in Italy. On est à la fois très proche et très loin des univers DC Comics et Marvel, les deux géants américains qui cartonnent au box-office avec Batman et Spider-Man. Freaks Out est un film de super-héros, oui, mais à la sauce italienne, nous explique son réalisateur Gabriele Mainetti.
Les films Marvel sont intéressants et leur stratégie marketing est très intéressante. Mais je ne suis pas fan de tous ces super-héros qui rebondissent dans un rectangle et ne meurent jamais. Je pense que pour un Italien, savoir dès le départ ce qu'est le bien et le mal, c'est impossible. Ici, personne ne va croire en un personnage qui sait quel est son devoir. Les personnages italiens doivent avoir un côté égoïste, lâche, peureux. Ils sont imparfaits. Je suis de Rome et tous les personnages du film sont aussi de Rome. Dans Freaks Out, ma vision de la vie est totalement romaine, car je serais incapable de faire un film sans analyser cela. Par exemple, s'il voit un alien, un Romain ne réagira jamais comme un Américain. Il va dire « Oh mon Dieu, ce ne serait pas un alien, ça ?» Ce serait forcément un moment comique, parce qu'on est comme ça.
Mais ce film...
on n'a pas tout traduit.
Non, on a laissé un peu d'italien dans le texte. Ce film d'action, ce divertissement ponctué de gags n'en reste pas moins une féroce critique du racisme et du totalitarisme.
Et oui, parce que les héros ici sont des freaks, donc des marginaux, des gens dont les nazis se méfiaient.
Sensio est albinos, Mario est nain, Fulvio est entièrement recouvert de poils, et Mathilde, cette jeune fille dont le corps produit de l'électricité, est juive. Si Gabriele Mainetti s'est bien sûr inspiré des X-Men et autres Avengers, il fait aussi des clins d'œil au Magicien d'Oz, à La Strada et à La vie est belle de Roberto Benigni.
J'adore ce film et je connais très bien Roberto. Franchement, j'aurais jamais pu faire Freaks Out s'il n'y avait pas eu avant moi La vie est belle. Son film est une grande leçon d'ironie et de comment se comporter face à une tragédie. Tarantino m'a également beaucoup inspiré. Son cinéma est très important pour moi. J'ai commencé à envisager d'être réalisateur en 1994. J'avais 18 ans et j'ai vu Pulp Fiction. Ça m'a littéralement hypnotisé. Ensuite, bien sûr, j'ai vu Inglourious Basterds et j'ai adoré sa façon de tordre l'histoire. Il tue Hitler dans un cinéma. C'est un peu la même chose qu'on fait dans Freaks Out. On parle de ce train qui quitte la gare de Tiburtina le 18 octobre 1943, direction Auschwitz, où un millier de Juifs qui étaient à bord furent ensuite exécutés. Eh bien, on arrête ce train dans le film. On inverse l'histoire, comme on peut le faire dans les rêves. Quand vous faites un film historique, vous ne le faites pas par nostalgie. Vous le tournez parce que cela peut faire écho à ce qu'on vit actuellement.
Et avec ses 12 millions d'euros de budget, Freaks Out est une anomalie dans le paysage cinématographique italien actuel. La production fonctionne en effet au ralenti, la pandémie ayant affaibli un peu plus encore un secteur très mal en point depuis les années Berlusconi.
En tout cas, ça s'appelle Freaks Out, signé Gabriele Mainetti. Et ben, vous nous le conseillez, ça sort ce soir. Merci beaucoup, Alexis.
Fabienne Sintès, le 18-20.
Le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. S'il n'y avait la guerre en Ukraine, ce serait l'événement international du moment. La Chine, longtemps épargnée par la pandémie, est confrontée à une flambée de cas. C'est le variant Omicron. Les confinements se multiplient. Mais de là à ce que Pékin reconnaisse l'échec de sa stratégie zéro Covid, c'est une autre histoire et c'est votre monde d'après.
Des autoroutes vides, des rues désertées, des magasins fermés, des transports à l'arrêt, des villes fantômes. Ça vous rappelle quelque chose, forcément. Oui, le premier confinement, il y a 2 ans. Eh bien, depuis hier, Shanghai, c'est ça. Ou plutôt, la moitié de la mégapole de 25 millions d'habitants. Confinement total. Puis ce sera l'autre moitié de la ville à partir du week-end prochain. La Chine est en train de vivre ce qu'elle n'a jamais vécu depuis le début de la pandémie, une flambée des cas difficile à maîtriser. Rien que pour Shanghai, 3500 cas avant-hier, 4500 hier, 6000 aujourd'hui, vous avez compris, doublement en 3 jours. Alors bien sûr, c'est très peu rapporté aux 1,4 milliard d'habitants de la Chine, mais la réalité dépasse sans doute les chiffres officiels et surtout la courbe ne cesse de grimper, le virus de se propager. Pour un pays qui se targue de maîtriser totalement la situation depuis 2 ans, c'est un échec. Les confinements se suivent, Shenzhen au sud, Shenyang au nord et maintenant Shanghai au centre. 28 régions sont touchées, sans oublier le cas particulier de Hong Kong, avec un record mondial de taux de mortalité depuis le début du mois. La flambée est telle que la presse officielle chinoise elle-même en reconnaît l'existence, impossible de dissimuler les faits. Il y a 3 explications à cette flambée. La moindre efficacité des vaccins chinois face à Omicron, le faible taux de vaccination des seniors, seulement 50% chez les plus de 80 ans, et l'absence d'immunité collective. La stratégie zéro Covid a empêché la circulation du virus, mais ça n'arrête pas Omicron. Renon le sait, il passe dans les interstices, échec sanitaire.
Et il y a un risque de vraies conséquences économiques.
Oui, par effet en chaîne. Revenons à Shanghai. À l'exception de quelques salariés dans les banques, notamment contraints de se confiner au travail pour faire tourner la machine, mais oui, sinon la ville est donc à l'arrêt. Les étals sont vides, les prix ont grimpé, les transports routiers et maritimes tournent au ralenti, l'industrie automobile aussi, avec plusieurs usines fermées. Les PME ont bien reçu quelques allègements fiscaux de la mairie, mais elles perdent de l'argent. Et la mégapole de Shanghai, c'est à elle seule 4% du produit intérieur brut chinois. Vous élargissez le paysage maintenant à 28 régions et vous avez une idée du problème. Le pouvoir à Pékin a promis une croissance de 5,5% pour cette année. Ça devrait plutôt ressembler à 4,5%, soit deux fois moins qu'en 2021. Ça veut dire moins de consommation intérieure, moins d'exportation, avec un impact sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'économie mondiale, puisque la Chine fournit désormais à elle seule 1/5 de la croissance mondiale. La stratégie zéro Covid avec ses confinements stricts, c'est par voie de conséquence une économie ralentie.
Alors est-ce que ça peut finir par créer un vrai problème politique ?
L'échec sanitaire, puis l'échec économique, puis l'échec politique. Bon, on n'en est pas là. Il y a, c'est vrai, des signes de mécontentement perceptibles sur les réseaux sociaux chinois. On est le seul pays à vivre avec le fantôme de 2019 du début de la pandémie, dit un internaute. Et la question, pourquoi ne pas lever les mesures de confinement comme c'est le cas ailleurs ? Cette question a entraîné 500 millions de partages. Exemple d'une autre nature. Il y a quelques jours, la mort d'une femme atteinte d'une crise d'asthme a déclenché 24 millions de commentaires. Elle n'avait pas pu être prise en charge par l'hôpital parce qu'il est débordé par les tests Covid. Là encore, conséquence donc du maintien de la stratégie zéro Covid. Une stratégie désormais dénoncée comme inefficace par certains scientifiques chinois. Bref, la censure ne parvient plus à canaliser les réseaux sociaux. C'est pas pour autant que le pouvoir va changer de ligne. Le zéro Covid, c'est devenu un dogme, presque un mantra personnel du président Xi Jinping. En septembre 2020, il en avait même fait le symbole de la supériorité du modèle socialiste chinois. Et en plus, ce dogme lui a permis de renforcer le contrôle social de la population. C'est pas à 6 mois de l'événement politique de l'année, le 20e congrès du parti à l'automne, qu'il va changer de religion et concéder s'être fourvoyé en s'entêtant sur le zéro Covid. Admettre qu'il y a une vague Omicron, c'est une chose. Admettre que la stratégie sanitaire et donc politique est devenue inadaptée, c'est une autre histoire.
Le Monde d'après, signé chaque soir, Jean-Marc Four. Merci beaucoup. À demain, le 18-20. La suite, c'est le journal d'Hélène Philly dans un tout petit instant. Et puis le téléphone sonne juste après. Ne changez rien.